Allez, bonjour à tous. Je suis un peu embêté parce que le temps file vite. Combien de temps j'ai? Ça va aller?
À
4 heures. Bon, c'est large, c'est bon. Okay. Alors, je vais commencer toujours par la même question. Est-ce que vous vous rappelez une fois sur quoi on avait partagé ensemble? Oui? Sur la croix, ok? L'amour, oui. Ouais, la croix, effectivement. Alors, il manque deux éléments. On avait abordé trois points. Le premier, c'était effectivement la croix. Donc, on avait un peu expliqué le sens de la croix. On avait essayé de comprendre ce qui s'est passé autour de la croix. On a essayé de vraiment comprendre. Après, on a abordé la résurrection. Et puis après, on avait abordé la consécration. Donc, trois thèmes. Et on avait vu que le point fondamental de la foi chrétienne, c'était la résurrection. Vous vous rappelez de ça? Bon, si vous ne vous rappelez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. On va lire un petit passage qui dit exactement ça. C'est dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, c'est vraiment la référence qui parle vraiment de la résurrection. Donc 1 Corinthiens 15, 17. Alors je lis. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et Paul lui conclut, dans ce verset magnifique, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, la foi, c'est vraiment la clé de voûte de la foi chrétienne. Enfin, non, la résurrection, c'est vraiment la clé de voûte de la foi chrétienne. S'il n'y a pas de résurrection, ben, tout ce qu'on est en train de faire ne sert à rien. C'est juste une perte de temps. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Alors, je ne sais pas si les concepts de croix, de résurrection, ça vous parle. Moi, je vous encourage vraiment, en tant que chrétien, c'est vraiment le point clé à lire les épîtres, notamment les épîtres de Paul, qui abordent vraiment ces questions et qui peuvent nous expliquer. Et ça va beaucoup nous encourager. Donc, les épîtres de Paul sont assez percutants et assez précis sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la croix, je ne vais pas vous parler de la résurrection. Je vais vous parler d'un autre point cardinal pour moi, pour la foi chrétienne. Alors, ce point, on va le retrouver non plus dans les épîtres, mais on va le retrouver dans le prologue de l'évangile de Jean. Alors, on va essayer de lire ce prologue de l'évangile de Jean, mais avant de lire le prologue de l'évangile de Jean, j'aimerais juste en fait faire quelques remarques sur l'évangile de Jean lui-même. Parce qu'en fait, l'évangile de Jean est en fait un texte qui occupe une place assez particulière dans le canon du Nouveau Testament. Alors, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait INSTE, donc l'institut, les cours de l'Institut de théologie par extension. Il y en a? Ouais, il y en a quelques-uns, ok. Si vous vous rappelez de ces cours, on précisait, il y avait une étude assez bien faite, formidable, qui était faite pour comparer en fait les différents évangiles. Et dans cette étude, vous vous rappelez, en fait, c'était précisé que l'évangile de Jean, le contenu de l'évangile de Jean, 92% du contenu de l'évangile de Jean n'était pas dans les autres évangiles. Donc c'était exclusif à l'évangile de Jean. Donc 92%, c'est quelque chose quand même d'énorme. Donc c'est juste pour dire que l'évangile de Jean est différent justement des autres évangiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une distinction entre ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc, par rapport à l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean, justement, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, premier point, particularité de l'évangile de Jean qui raconte des histoires qui ne sont pas du tout dans les autres évangiles. Le deuxième point, et on le retrouve aussi dans ce même cours qui est exposé dans les cours de INSTE, c'est que l'évangile de Jean, c'est un évangile qui s'adresse au monde entier. Alors, si vous vous rappelez, l'évangile de Matthieu, c'était un peu l'évangile qui était destiné pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on présentait Jésus comme le roi. Justement, dans cet évangile, vraiment, on insiste beaucoup sur la descendance de Jésus. C'est pour ça que ça commence par la généalogie, pour dire que Jésus descend de David, parce que justement, il y avait cette royauté. Et Et c'est ça qui parlait au peuple juif. Et l'évangile de Luc, c'était l'évangile qui était destiné aux Grecs. Et parce qu'on y présente Jésus comme étant le Fils de l'homme. Et l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui était destiné aux Romains, parce qu'on y présente Jésus comme le serviteur. Alors, ces termes, serviteur, fils de l'homme ou roi, ce n'est pas des termes qu'on a inventés pour créer une cohérence théologique et ça, mais c'est vraiment des termes qu'on retrouve même dans l'évangile. Okay. Et l'évangile de Jean, par contre, c'est vraiment l'évangile qui était destiné au monde entier. Voilà. Ça, c'est les deuxième remarque. Troisième remarque, c'est que l'évangile de Jean est en fait l'évangile qui a été écrit le plus tardivement possible. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard, et on va le voir tout à l'heure. C'est l'évangile qui a été écrit un peu plus tard, donc qui a été écrit plusieurs années plus tard, après les autres évangiles. Et on va voir pourquoi, justement. Alors, ça, c'est le troisième remarque. Alors, la remarque sur laquelle je veux m'arrêter, c'est qu'en fait, c'est la quatrième, c'est que l'évangile de Jean a été écrit à un moment de l'histoire où, en fait, ce qu'on appelait le miracle grec était vraiment, comment dire, avait gagné, si tu veux, tout l'univers intellectuel romain et grec de l'époque. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qu'on appelle le miracle grec? Ce qu'on appelle le miracle grec, ceux qui sont familiers à l'histoire de la pensée ou à ce genre de trucs, savent qu'en fait, ce qu'on appelle le miracle grec, c'est quand on est passé d'une situation où on expliquait le monde à travers des mythologies à une situation où on essayait de mettre en place des raisonnements par la raison. C'est ce qu'on appelle le miracle grec. C'est ce qui a fait la naissance de la philosophie. Donc, ce que les Grecs appellent le miracle. Donc, pour eux, c'est un miracle. Voilà. Donc, et en fait, l'évangile de Jean a été écrit à cette période-là où, en fait, justement, le miracle avait imprégné tout l'univers intellectuel. OK. Alors, vous allez voir maintenant pourquoi ça a été écrit à cette époque-là. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, la résurrection est effectivement le point clé, la clé de voûte de la foi chrétienne. Il fallait comprendre en fait que cette notion de résurrection, ce n'était pas du tout quelque chose qui pouvait parler à des Romains ou à des Grecs de l'époque. Donc, on va d'ailleurs le voir. Je vous invite en fait à lire un texte juste pour vous montrer que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi, mais c'est vraiment les choses qu'on retrouve aussi dans la Bible. La Bible, c'est quelquefois des fois un bon livre d'histoire, on va dire. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Okay, vous vous rappelez en fait de ce chapitre 17 qui expose le discours de Paul à l'aéropage. Paul était parti à l'aéropage et là on se retrouve vraiment au cœur de l'agora, c'est-à-dire là où tous les penseurs, les intellectuels de l'époque venaient exposer leurs pensées, leurs idées, etc. Paul était parti sur place justement pour exposer la doctrine chrétienne et il l'a exposé sous l'angle de la résurrection. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand il a fini d'exposer son ce qu'il pensait être vraiment le summum de la pensée, parce que justement il avait la foi, il pensait que justement que c'était quand même une bonne chose de l'exposer. Ça. Quand il a fini d'exposer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fini de parler de la résurrection. Alors je lis le verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et ainsi, Paul se retira du milieu. Quelques-uns néanmoins, donc le néanmoins est assez marrant, s'attachèrent et puis voilà. Donc en fait, on voit qu'en fait, ce discours de Paul qui présentait justement l'évangile sous l'angle de la résurrection, qui était justement le point culminant de la foi, tiens, ne parlait pas du tout à ces gens-là à l'époque. C'était pas quelque chose. Et non seulement il les parlait, c'est que les gens ne voulaient plus entendre parler des histoires à dormir debout. Ils ne voulaient toujours pas entendre parler de ça. Et donc, et c'est là où intervient l'évangile de Jean. C'est là où, en fait, l'évangile de Jean va permettre à la foi chrétienne de pénétrer tout l'univers intellectuel du monde romain et grec de l'époque. Ok? Est-ce que c'est clair ou pas? Ok, d'accord. Donc, on va essayer maintenant de voir. Pour voir, je vous propose en fait qu'on lise. Alors, parce qu'en fait, combien on prend le temps? Je vais juste. Alors, le prologue de l'évangile, j'espère que vous le connaissez tous. Donc, je vais juste lire deux parties qui nous intéressent. Alors, Je vais dire la première phrase en grec. Moi, je ne parle pas grec, mais en fait, ça s'entend. La première phrase en grec, c'est. Comment dirais-je? En arché en o logos. Donc, ce que je veux vraiment insister, c'est le mot logos. Parce que ça va être le mot qui va nous toute la prédication de fait, ça va être autour de ce mot. Et vous allez voir que ce mot est. En fait, le problème de l'évangile des gens, moi, quand je la lis, je la vois toujours comme une pièce de monnaie. Il y a toujours deux faces. En fait, il se trouve que les chrétiens ont compris une des faces, mais beaucoup de gens ne comprennent pas l'autre face. Et c'est cette autre face-là que je vais vous exposer aujourd'hui. Voilà. Donc, en arché, en o logos. Donc, en arché, en o logos. Donc, au commencement, était le logos. Donc, au commencement, était le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Alors, je saute une bonne partie. Et plus loin, il est écrit, et le logos est devenu chair. Donc, en grec, c'est kai o logos, sax egeneto. Sax, c'est ce qui a donné le mot sarcophage, pour faire le lien. Donc, sarcophage, c'est justement cette boîte où on met le sax, donc la chair. Grosso modo, ok? Donc, kai o logos, sax egeneto. Donc, quand on entend les mots, on retrouve certains mots français. Ok, voilà. Donc, ça suffisant pour ce que je vais exposer aujourd'hui. Donc, au commencement était le logos était avec Dieu, le logos était Dieu. Et après, plus loin, on apprend que le logos s'est fait chair. Ok. Alors, je disais tout à l'heure qu'en fait, l'évangile de Jean a été écrit à une période où justement la philosophie grecque était à son sommet. Ça imprégnait toute la pensée grecque et romaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de philosophie, bon, généralement chez les chrétiens, dès qu'on parle de philosophie, tout le monde fuit, ce qui est peut-être normal. Ce qu'on parlait de philosophie à l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on entend par philosophie aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de philosophie, on parle de quoi? On parle d'un discours sur des concepts. Qu'est-ce que c'est que sur des concepts? Qu'est-ce que c'est que le beau? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'ontologie? Est-ce que l'ontologie est accessible par la raison, par la foi, par l'intuition? Et donc, on s'engouffre dans des discussions sans fin qui ne servent strictement à rien. Et il faut savoir que chez les Grecs, c'était absolument pas du tout ça la philosophie. La philosophie, pour la comprendre, il faut juste revenir à l'étymologie du mot « même ». Et l'étymologie du mot, c'est quoi? C'est « philo » qui veut dire « philia », »,« amour »,« sophie » qui vient de « sophia », »,« sagesse ». Et la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Alors pourquoi l'amour de la sagesse? Parce que la philosophie n'était pas un discours, mais une pratique de vie qui permettait d'atteindre en fait une certaine sérénité, un niveau de sagesse qui nous permettait de dépasser les peurs qui nous empêchaient à avoir une vie bonne ou une vie réussie. C'est ce qu'on comprend. Voilà. Parce que justement, les Grecs, ce que les Grecs cherchaient, c'était une vie bonne ou une vie réussie. On va le voir tout à l'heure. Okay? Donc c'était vraiment une pratique de vie pour justement dépasser toutes les peurs. Parce qu'en fait, ils avaient l'idée qu'en fait, on n'arrivait pas à vivre notre vie pleinement parce qu'on était justement envahi par des peurs et c'est ces peurs-là qui nous empêchaient de mener une vie réussie. Okay. Donc parmi les peurs, on peut citer que ça peut être des angoisses, ça peut nous arriver tous. Effectivement, des fois, quand on est angoissé, ben, on a du mal à être concentré, on a du mal à vivre notre vie pleinement. Donc ça peut être des angoisses, ça peut être des peurs sociologiques, c'est-à-dire typiquement, tu te retrouves quelque part dans un endroit où en fait tu t'estimes inférieur sociologiquement par rapport à d'autres, donc tu es complexe et tu ne sais pas trop dire, etc. Donc ça te tétanise, ce qui fait que tu n'arrives pas à vivre. Et puis il y a une peur, et c'était ça qui intéressait vraiment les penseurs, les philosophes de l'époque, qui était au-dessus de toutes les autres peurs, qui était la peur de la mort. C'était ça en fait le point, c'était cette peur-là qui justement tétanisait un peu tout. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y aura en fait toute une doctrine du salut qui va être mise en place, qui va être exposée, qui va être proposée pour permettre aux gens de justement, en adhérant à cette doctrine du salut, de dépasser les peurs de la mort. Et en fait, on va le voir, c'est que Jean va écrire son évangile en réponse de cette doctrine du salut, qui était, doctrine du salut, qui était la doctrine du salut dominante de l'époque. Ok? Est-ce que c'est clair? Ok. Si c'est pas clair, vous me faites signe, j'essaie toujours de... Quand c'est pas clair, il faut toujours que... Étape par étape, que les choses soient claires, sinon c'est pas... Alors, quelle était cette doctrine du salut? Alors, en fait, cette doctrine d'Israël n'est pas si révolutionnaire que ça, pour la simple raison, c'est qu'en fait, c'est une doctrine d'Israël qui est complètement inspirée d'un mythe, donc d'une histoire mythique, qui est en fait ce mythe qui est raconté dans l'Odyssée d'Homère. Ok? Alors, moi, Taglieri n'est pas là, parce que l'année dernière, en fait, il avait eu son cours d'histoire. On leur expliquait qu'en fait, que les Grecs, à l'époque, ils apprenaient par cœur l'Odyssée d'Homère. Et donc, ils trouvaient ça un peu bizarre. Je lui expliquais qu'en fait, c'était un peu le livre de référence chez les Grecs à l'époque. Donc, tout le monde apprenait l'Odyssée d'Homère et tout le monde le parcourisait par cœur. C'est ce que fait aussi les Juifs par la Bible. Il y a les Grecs qui apprennent pas par cœur, on va dire, la Bible, parce que déjà, il est gros, mais bon, on essaie quand même d'apprendre par cœur certains messages au moins. Mais si vous pouvez, en tout cas, si vous sentez que vous avez les capacités de le faire, c'est toujours bien, quoi. C'est toujours bien parce que ça permet de retenir un peu les choses. Donc, vous revenez sur cette doctrine d'Israël. C'est une doctrine d'Israël qui est complètement puisée dans une histoire qui est racontée dans l'Odyssée d'Homère. Je vais aller vite. Alors, l'histoire, elle est longue, mais je vais vraiment la synthétiser plus de façon plus concentrée pour ne pas prendre un peu de temps. Vous vous rappelez de ce personnage qui est Ulysse. Donc, l'Odyssée, c'est le mot d'Ulysse en grec. Vous avez appris que Ulysse était embarqué dans la fameuse guerre de Troie. Okay? Et en fait, cette guerre de Troie va durer 10 ans. Et cette guerre, d'ailleurs, le départ de cette guerre est lié à une autre histoire qui est l'histoire de la pomme de discorde, mais je vais pas rentrer dedans parce que ça va être long. Donc, il va être embarqué dans la fameuse guerre de Troie. Et donc, la guerre de Troie va durer 10 ans. Et puis, les Grecs vont gagner cette guerre grâce à l'intelligence d'Ulysse parce qu'il va avoir l'idée formidable de construire le fameux cheval de Troie. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Alors, ceux qui ont vu le film avec Brad Pitt de... Comment ça fait encore? Troie, voilà. Ça rappelle bien de ça. Je parle ici. Il y en a qui l'ont vu?
Oui.
Enfin, parfait. Ok. Donc, Ulysse, c'est lui qui a eu l'idée, justement, de défaire tous les bateaux grecs et de construire ce grand cheval. Ok? Et puis tous les soldats grecs, parce qu'en fait les Grecs avaient un problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans Troie parce que c'était vraiment une forteresse. Donc ils n'arrivaient pas à rentrer, donc la guerre a duré pendant 10 ans. Et à un moment donné, il a eu l'idée, et puis il a construit ce fameux cheval de Troie. Et puis tous les soldats grecs sont rentrés dedans. Et quand les Troyens sont venus voir ce qui se passe, ils ont vu qu'en fait tous les bateaux étaient massacrés, c'était le massacre, et puis ils voyaient des morts de partout, ils comprenaient tout ça. Et puis en réfléchissant, ils ont dit... En fait, c'est les dieux qui ont tué les Grecs et qui ont érigé ce statut pour qu'on le prenne pour justement les rendre grâce finalement du retour, enfin, du fait qu'ils ont massacré les Grecs, quoi. Et donc, ils vont prendre ce cheval, ils vont le faire rentrer dans la ville de Troie. Et ce qui se passe la nuit, ben, les soldats grecs sont sortis, ils vont massacrer les Troyens et c'est la fin de la guerre de Troie. Et donc c'est la fin de la guerre de Troie. Maintenant, il fallait retourner chez... Et donc Ulysse va vouloir retourner chez lui. Alors Ulysse, il faut voir que c'est le roi d'une ville qui s'appelle Ithaque. Donc il va vouloir retourner chez lui à Ithaque. Mais alors, c'est bizarre parce que autant il a fait quelques heures pour arriver à Troie, de Ithaque à Troie, autant ils doivent passer 10 ans pour retourner chez lui. Alors pourquoi il va passer 10 ans à retourner chez lui? C'est que dans le chemin du retour, et puis je vais finir l'histoire pour rentrer vraiment dans le sujet, désolé, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc, il va vouloir rentrer au chemin du retour. À un moment donné, il va crever l'œil d'un cyclope qui s'appelle Polyphème, qu'importe. En fait, il se trouve que ce cyclope-là était le fils d'un dieu qui est très méchant, qui s'appelle Poséidon. Et donc, Poséidon va lui mettre des embûches, va l'empêcher de retourner sur lui. Donc, en fait, il va lui pourrir la vie et lui va mettre 10 ans à lui servir. Et en fait, à un moment donné, il y a une embûche qui est assez, et c'est ça que les penseurs grecs vont retenir. Il y a une embûche qui paradoxalement est assez intéressante, c'est que Ulysse va débarquer dans une île qui s'appelle l'île de Calypso. Alors, Calypso, ça veut dire Calyptéine. Donc, Calyptéine, c'est celle qui cache. C'est d'ailleurs là où vient le mot apocalypse. Donc, Calypse caché, Apo dévoilé, Apocalypse ce qui est dévoilé. Donc, juste pour faire une petite parenthèse d'étymologie. Donc, il va il va se retrouver sur cette île qui est l'île de Calypso. Alors, Calypso, c'est une divinité, mais qui est d'une beauté incroyable. Mais elle est tellement belle. Ulysse va le voir, et il va être séduit naturellement. Et en plus, Homère prend bien soin de décrire l'île de Calypso dans son livre. L'île de Calypso est un vrai paradis. Un vrai paradis. Et donc, Ulysse va se retrouver presque dans un paradis. Et puis après, l'histoire continue, et puis à un moment donné, il y a une divinité, Athéna, qui demande au roi des dieux pour dire à Calypso de laisser parler Ulysse, parce qu'en fait, ce n'est pas possible, etc. Donc, les dieux vont envoyer à Calypso en disant, ok, maintenant tu laisses parler. Et ce qui se passe, c'est que quand les dieux vont lui demander de laisser parler Ulysse, et c'est ça, justement, que toute la sagesse va retenir, c'est Calypso va lui faire une proposition incroyable qui va lui dire, Ulysse, on m'a demandé de te laisser partir, je vais te laisser partir, mais si tu acceptes de rester avec moi, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Donc il va lui faire une proposition qu'aucun humain, normalement, ne peut refuser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de lui faire cette proposition, Ulysse est passé par les enfers, et quand il a vu les enfers, quand il est sorti, il était tellement tétanisé, et tellement peur, et on lui fait cette proposition après tout ce qu'il a vu. Et figurez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ulysse va refuser cette offre. Et c'est toute cette histoire-là que la philosophie grecque va reprendre, tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Il va refuser cette offre. Pourquoi? Parce qu'il va penser qu'une vie de mortel réussie, donc je reviens toujours à cette notion de vie réussie, est préférable à une vie d'immortel ratée. Maintenant, la question c'est pourquoi il pense que la vie d'immortel que Calypso lui offre sera une vie ratée? Alors, c'est ça qu'on va rentrer justement. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir que les Grecs, ils avaient une vision du monde qui était assez extraordinaire. C'est qu'ils pensaient que l'univers entier était un gros animal. Et que chaque chose était à sa place. Grosso modo, quand on ouvre par exemple le ventre, on va dire, d'un individu, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas un chaos, bien entendu. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que chaque organe est à sa place. Chaque organe est bien fait pour remplir sa fonction. Il n'y a rien de mieux fait qu'un cœur pour faire circuler le sang. Il n'y a rien de mieux fait qu'un œil pour voir. Il n'y a rien de fait qu'un poumon. Voilà. Et donc, ils vont voir qu'ils vont faire en fait une projection en disant que l'univers entier est organisé comme ça. Et donc, ce qu'ils appellent justement le cosmos. Et cosmos, ça veut dire juste quoi? Un monde harmonieux. Donc ils vont voir l'univers entier comme un cosmos. Et donc cosmos, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste quelque chose d'harmonieux, de beau et de bon. Ok? Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont penser que ce cosmos qui est justement harmonieux, il est un peu à l'image justement du corps et du vent. C'est qu'en fait, ils vont voir qu'en fait ce truc, comme c'est pas les humains qui l'ont fait, comme c'est pas justement c'est pas quelque chose qui a été fait par l'homme, et donc tout ce que les hommes ont fait, c'est beaucoup mieux que tout ce que les hommes ont fait. Ils vont mettre une équation pour dire que le cosmos, il est non seulement harmonieux, mais il est théien, il est divin. C'est le mot grec, il est divin. Ok? Alors qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde dans le corps humain? Qu'est-ce que tu vas voir? On va voir en fait que tous les organes sont en sa place, et on va voir une certaine logique de tout ce système qui nous dépasse. Parce qu'en fait, on voit que c'est tellement logique, tellement bien fait, qui nous dépasse. Et donc, ils vont aussi mettre une égalité en disant que ce cosmos qui est divin, parce que ça nous transcende, il est aussi logique, logos. Et c'est le mot logos qui a donné en français le mot logique. Donc, toute la doctrine du salut de l'époque va être basée sur cette équation-là. Logos est divin et il est cosmos. Ok? Alors, pourquoi Ulysse refuse l'offre? Parce que Ulysse, il pensait ceci, comme tous les Grecs, comme le cosmos est divin, qu'il est éternel, et que le cosmos est éternel. Pourquoi il est éternel? Parce que les cycles de la vie nous rappellent toujours que le cosmos est éternel. Après la nuit, le jour, après la pluie, le beau temps, etc. Comme il est éternel, il pensait que s'il avait trouvé sa place dans ce cosmos, il deviendrait lui-même éternel. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Non. Ok, je réexplique un peu. Juste parce que non, c'est important. Après, comme ça, on va voir la rupture avec l'évangile des gens. Ok? Le cosmos et parfait, parfaitement organisé, bien harmonisé. Chaque chose est à sa place, comme dans un corps humain. Chaque organe est à sa place. Il est divin parce que ce n'est pas nous les petits humains qui l'avons mis en place. C'est quelque chose qui nous transcende. Mais aussi, il est logique parce que ce système entier fonctionne de façon parfaitement logique. Donc, ils vont mettre en place une équation qui est logos égale théon égale cosmos. Ok? Ok. Maintenant, comme le cosmos, nous, en tant qu'individus, on est dans ce cosmos, on est d'accord? Donc, comme un organe est à sa place dans le corps d'un être humain, on est d'accord? Si le cosmos est éternel, et si on a trouvé notre place dans ce cosmos, ben on devient soi-même éternel. En fait, on devient un petit fragment d'éternité. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Donc, c'était en fait la doctrine du salut qui était proposée à l'époque. Ok? Mais Jean, au lieu de parler de résurrection, il va contourner le problème.
Il va dire quoi?
Il va dire le cosmos, le logos est avec Dieu. Le logos est Dieu. Donc il est théon. C'est ce qu'il dit dans son évangile, ce qu'on a lu tout à l'heure. On est d'accord? Alors, quand un grec lit ça, il va dire le cosmos et le logos. Ah ben moi, je suis chrétien, c'est parfait. Moi, je suis d'accord avec ça. Il dit le cosmos est théon, il est divin. Le grec il va dire, ah ben moi je suis doublement chrétien parce que je suis d'accord avec ça. Mais Jean va rajouter un truc, il va dire que ce logos est fait chair et c'est Jésus. Ok? Donc la différence se situe à ce niveau-là. Et ce qui va se passer, c'est que les sages grecs vont dire, mais vous êtes complètement siphonnés les chrétiens. Comment vous pensez que le cosmos entier peut s'incarner vers une personne, formidable soit-il, qui est le Christ? Sauf que Jean va rajouter quelque chose qui va justement le rabattre le caquet, comme on dit. Il va dire, ok, comme vous bénéficiez, en fait, votre Dieu, c'est le cosmos. Mais sauf que le cosmos, c'est quelque chose qui est impersonnel. Ok? Si vous jaserontrez dans ce cosmos pour être éternel, ben vous allez être comme le cosmos, vous allez être impersonnel, anonyme et un fragment d'éternité aveugle dans ce cosmos. Lui, ce qu'il va dire, c'est que notre Dieu, il est une personne. Si on arrive à s'adjointer à lui, et à lui, c'est quoi? C'est l'Église. Si on arrive à trouver notre place dans cette personne qui est Jésus, si on arrive à trouver notre place dans l'Église qui est Jésus, ok? Vu qu'il est ressuscité, on va nous-mêmes ressusciter, mais en tant que personne, mais pas en tant que quelque chose d'impersonnel. Est-ce que c'est précis? C'est clair? Ok. Alors, vous conviendrez avec moi, c'est quand même beaucoup plus excitant d'avoir une résurrection personnelle qu'une résurrection anonyme. Mais c'est ça qui va faire que la foi chrétienne va vraiment pénétrer toute la philosophie, comment on appelle ça? Tout l'univers intellectuel de l'être. C'est qu'en fait, Jean va réintroduire la résurrection, mais en partant justement de l'équation fondamentale qui régit, grosso modo, toute la pensée grecque de l'époque. C'est pour ça qu'en fait, moi j'en sais rien, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais je pense que Jean, il a dû voir que les évangiles classiques ne répondaient pas au truc de l'époque, et il a peut-être dit, ok, je vais réécrire un nouveau évangile, sans parler de ce qui existe déjà, mais en parlant de vraiment ce que moi j'ai vécu. Et pour répondre justement à ces problèmes. Et quand vous lisez l'évangile des gens, d'ailleurs, vous pouvez voir que les Grecs, à l'époque, qu'est-ce qu'ils étaient passionnés? C'était de trouver la vérité. Et c'est pour ça que dans l'évangile des gens, vous avez le mot vérité qui arrive en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pourrais vous le montrer, je vais vous dire. Si, chapitre 1, en vérité, si vous verrez désormais le ciel ouvert, etc. Quoi encore? Je vais vous montrer. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous vous rendons témoignage de ce que nous avons vu. En vérité, je le dis, si un homme naît de nouveau, etc. Plus loin, c'est même pas compliqué de trouver les trucs. Si Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ok? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en ce, etc. En vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix, etc. Jean va passer son temps, en vérité, enfin, tout l'évangile est criblé de, en, voilà, c'est à cette voix. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ok. Donc ça c'est un premier point. Donc juste pour un peu expliquer les différences fondamentales. Parce qu'en fait, des fois, en fait, on pense que les gens... Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais en fait, on pense qu'ils n'ont pas de doctrine du salut. Mais ça, c'est une doctrine du salut qui est très belle. Moi, je trouve ça très belle. Bon. Mais en fait, il faut savoir justement répondre. C'est que des fois, en fait, on pense que les gens... Enfin, on voit des athées, on pense que les... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Je ne sais pas si je de façon facile. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que notre vision du monde... Je vais le dire direct, après je vais l'expliquer. Notre physique induit toujours notre métaphysique. C'est-à-dire, notre vision du monde, telle que nous voyons le monde physique, va toujours induire notre doctrine du salut. Quand vous pensez que le monde ne fait que de matière, rien d'autre que de la matière, et qu'il n'y a rien d'autre que la matière, ben vous ne pouvez être que athée. La physique induit toujours une métaphysique. Parce que nous, on croit, parce qu'on pense que Dieu, c'est la réalité la plus réelle. Et donc, notre physique, c'est Dieu. Et forcément, on a la foi. Et donc, c'est ce qu'il faut arriver des fois à expliquer. Okay? Donc, c'est ce que fait Jean. Jean, il est en train de dire, notre physique, c'est Dieu. Parce que c'est la raison de toute chose. C'est Jésus, c'est la raison de toute chose. Et c'est sur ça que doit tourner, justement, notre foi. OK? Alors, je vais passer, en fait, ça c'est en fait la dimension, on va diffuser. Après, il faut voir qu'en fait, cette doctrine du salut va entraîner des conséquences et on va voir en fait, on va retrouver justement on va retrouver les choses qui structurent la foi chrétienne, ok? Quand les Grecs disent ça en disant ok, tout est dans le cosmos, etc. Bah, il faut, ça c'est très théorique, il faut voir qu'il n'y a pas que ça derrière, il y a quand même toute une sagesse quand même beaucoup plus intéressante. Et donc, pour pouvoir, en fait, ce qu'ils vont dire, c'est que pour pouvoir s'ajuster dans le cosmos et justement dépasser cette peur de la mort et avoir une vie réussie, il faut en fait deux choses. Il faut un, être dans le détachement. Il faut être dans le détachement complet des choses. Et quand ils disent détachement, c'est détachement au sens radical du terme. C'est-à-dire, même quand vous avez votre enfant, il faut toujours que vous appreniez à vous détacher de lui. Parce que sinon, si vous vous attachez trop à lui et que vous le perdez, ben vous n'allez plus pouvoir retrouver votre place dans ce cosmos parce que vous allez être tellement perturbé par autre chose que ça va vous empêcher d'arriver à une vie réussie. OK ? Donc le premier point, c'était le détachement de toute chose. OK ? Entre parenthèses, je continue après. Il faut voir qu'en fait, cette doctrine du salut-là, ce que je parle sur le détachement, c'est ça qui a influencé beaucoup les premiers chrétiens de l'époque. Et c'est ça qui a amené à beaucoup de gens de mener une vie monastique. C'est lié à ça. C'est pas lié à... La vie monastique, c'est pas quelque chose qui est dit dans la Bible. Hein. C'est pas quelque chose qui est défendu correctement dans la Bible. C'est justement cette influence grecque qui faisait que les prêtres, par exemple, ils ne veulent pas faire de... Ils ne veulent pas fonder de famille parce que justement ils ne veulent pas avoir cet attachement personnel qui les empêche de mener entre guillemets le ministère. Voilà, ça vient de là. Ok. Le deuxième point, c'est qu'en fait les Grecs pensaient qu'en fait il y avait deux mots qui structuraient la vie de l'être humain. Deux mots, M-A-U-X, deux mâles au pluriel, pas mots, M-O-U-T. Deux mots qui structuraient la vie humaine. C'était quoi? C'était le passé et le futur. Pourquoi? Parce que quand le passé a été formidable, on va toujours vivre dans la nostalgie du passé. Okay? Ce qui va nous empêcher d'avoir ce détachement et de mener une vie qui va nous amener au salut. Quand le passé a été horrible, ça va aussi nous poser problème parce qu'on va vivre dans les regrets. Et donc, le passé, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment se débarrasser. OK? Le futur, pour eux, c'était du non-être. C'est-à-dire, le futur n'existe pas, vu qu'il n'est pas arrivé. Donc, c'était du non-être. Et vivre dans l'espérance, c'était la pire des choses. OK? Parce que quand on vit dans l'éphémère, justement, on ne vit pas dans le présent. Et donc, ça va nous empêcher aussi de mener une vie réussie, correcte. Ok ? Et c'est ça qui a donné, justement, toutes les philosophies, ce qu'on appelle les philosophies du présent. Ça vient de là. Parce que le passé, ça nous tire en arrière. Le futur, c'est quelque chose qui n'est pas encore existé, qui n'existe pas. Donc, il faut vivre pleinement le présent. C'est ça qui donne, en fait, c'est ça qui est à l'origine, justement, de ce qu'on appelle les philosophies du présent. Ok ? Donc, il y avait ces deux trucs. Ok ? Qu'est-ce que dit Jean à travers son évangile ? Alors, l'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'amour. Merci. Est-ce qu'on peut vraiment être détaché de nos enfants ? Moi, je ne sais pas, je ne saurais pas faire. Je ne saurais pas aussi non plus me détacher de mes parents. Je ne saurais pas faire. Ce que Jean va dire, ce que Jean va enseigner, c'est qu'effectivement, le détachement, c'est quelque chose de bon. Mais on peut s'attacher. On peut s'attacher à quoi ? Ben, on peut s'attacher à ce qu'il y a intrinsèquement de l'éternité. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'éternité partout dans l'univers ? C'est chez lui, l'être humain. Et donc, il va développer toute une philosophie de l'amour de l'autre qui va justement... C'est là où, en fait, la philosophie de l'amour va arriver. C'est qu'en fait, quand on est attaché à quelque chose qui est attaché au corps, vu qu'il est éternel, ben on ne la perdra jamais. C'est qu'on sait juste qu'après la mort, on va la retrouver. Donc, on peut y aller à l'attachement. Tu vois, vous voyez ? On peut aller à l'attachement. Okay ? L'attachement, c'est la solution de l'attachement, du détachement, c'est l'amour. Okay ? Est-ce que c'est clair ou pas ? C'est clair ? Ok. Donc, ça, c'est pour répondre à ce premier point. Le deuxième point. Le jour où on a donné notre cœur à Jésus, notre passé peut être horrible. Mais qu'est-ce que dit Jésus ? Ok, tout ton passé, je vais m'en charger. Regarde l'espérance dans le futur. Donc, en fait, on réintroduit le passé et le futur, parce que ça fait partie simplement de notre vie. On peut pas y être. Personne ne peut vivre pleinement dans le présent en oubliant tout ce qui s'est passé. C'est impossible. Mais ce que propose justement l'évangile, c'est que le passé, c'est quelque chose qui existe. Il faut en prendre compte. Si c'est quelque chose de mal, il faut savoir que Dieu a pardonné les péchés. Et il y a de l'espérance dans le futur. Donc, toutes ces dimensions du temps seront réintroduites. Et ça va être déterminant. Et ça va structurer notre vie. Ok ? Donc, c'est ça en fait l'idée que Jean expose dans son évangile. Okay ? C'est vraiment l'idée de dire l'équation fondamentale du christianisme, c'est ça. Okay ? C'est marrant parce qu'en fait, moi j'aimais beaucoup Paul et en fait un jour j'étais en train de prier avec mon petit frère. Alors, j'aime beaucoup discuter avec mon petit frère parce qu'il est, il est très méticuleux quand il lit. Quand il lit, il voit des choses que tu ne vois pas. Il est très pointu quand il lit. Bon, c'est pas pour rien, il est professeur de philosophie, donc c'est pas pour rien. Mais quand il lit, mais c'est incroyable. C'est que tu lis un truc, tu dis comment t'as compris, il va te sortir un truc que toi-même t'avais pas vu. Et puis un jour, on discute, et puis à la fin, on était tellement contents de notre discussion. Et puis on a compris, non, la Bible, c'est quand même formidable. Quoi. C'est un livre incroyable, etc. Et puis ça a développé sur une discussion. Quel est ton livre préféré? Quel est ton passage préféré de la vie? Et puis là, moi, je m'engouffre, je lui parle des lettres de Paul en lui disant, ouais, Paul, il sait bien expliquer. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, il est structuré, etc. Et puis après, moi, je lui dis, ben, toi, c'est quoi ton passage préféré? C'est quoi ton livre préféré? Et là, il me dit, non, mais moi, la Bible, je dis, ben non, ça, c'est la réponse que les chrétiens donnent. Non, j'aime toute la Bible. Je dis, ben non, tu vas pas mettre le livre de Sophonie sur le même niveau que le livre de Romain, pour pas non plus exagérer, quoi. Donc, je lui dis ça. Et puis après, il me dit, moi, franchement, la personne qui me touche vraiment dans la Bible, c'est Jean. Parce que c'est le seul qui a compris, qui a compris que Jésus était Dieu. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, lis. Dis, continue de lire l'évangile d'Jean, mais lis-le en le voyant sous angle. Et effectivement, quand on pose l'équation Jésus égale Dieu, c'est là où on comprend en fait tout le processus du salut. Vous savez, en fait, moi je pense que si Jésus n'était pas Dieu, je pense qu'on pouvait tous échapper à l'enfer. Pourquoi ? Parce que quand on va se retrouver devant Dieu, et qui va nous juger. Il va nous dire, ben, t'as pas fait ça, t'as fait ça, t'as fait du mal, etc. Ben, on peut lui faire facilement une objection. On peut lui dire, mais Dieu, toi, tu es Dieu. Tu es parfait. Moi, je suis un être humain, je ne suis pas parfait. Ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. Mais comme Dieu s'est fait homme et qu'il a vécu l'expérience humaine, on ne pourra jamais lui faire cette objection. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que tout jugement a été donné au Fils. Ce n'est pas Dieu qui va juger, ce n'est pas le Père qui va juger. Hein. C'est le Fils qui va juger. Pourquoi? Parce qu'il a vécu l'expérience humaine. Et on ne pourra jamais lui faire cette objection. Parce que lui, il va te dire, moi j'ai vécu la condition humaine. J'ai vécu les tentations. Mais j'ai quand même tenu bon. Ok? Et donc ça nous permet de comprendre ça. Deuxièmement, ça nous permet de comprendre que Dieu, il nous aime vraiment. Parce qu'en fait, je donne très souvent cet exemple à l'étude biblique. Imaginons que vous pouvez faire des fourmis. Vous pouvez faire des fourmis et les faire vivre. Vous faites des fourmis, vous les faites vivre. Ok? Et puis, ben, vous demandez aux fourmis de mener une vie. Une vie qui est la vôtre, ben, les fourmis, il ne faut pas vivre votre vie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que Dieu s'est transformé en fourmi et il lui a donné justement son esprit. Il a mis à disposition son esprit pour les fourmis. Et donc, quand tu en es fourmi et qu'on prend l'esprit de Dieu, ben, on peut vivre la vie de Dieu. Vous voyez un peu la différence? Donc, c'est ça que le christianisme met à notre disposition. C'est que Dieu ne peut pas nous demander de faire une vie extraordinaire. Pourquoi il nous demande de le faire? Parce qu'il a mis à disposition notre esprit. Ok? Son esprit, pardon. Il a mis à disposition son esprit pour que nous puissions vivre avec son esprit pour vivre une vie d'enfant de Dieu, comme on dit, et une vie justement sainte, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre justement ce prologue de l'évangile de Jean. Cette équation-là, ça nous permet de comprendre tout ce qui va structurer la foi chrétienne. Ok? Alors, vous pouvez me dire maintenant, mais comment le... Effectivement, les Grecs, effectivement, je peux comprendre la question. Comment le cosmos tout entier peut s'incarner vers une personne? Ok? Bon. C'est quand même bizarre comme truc. C'est pas facile à comprendre. Bon, je vais vous faire comprendre. Je vais vous montrer juste que c'est possible. On va faire un peu de mathématiques. Non, mais ne vous inquiétez pas. Le niveau de mathématiques que je vais vous demander n'est pas énorme que ça. Mais je vais juste vous montrer que c'est possible. Je vais juste vous montrer en quoi c'est possible. Parce que ça peut se comprendre. Quelqu'un peut se poser la question. Comment on peut penser que le Dieu infini peut vraiment s'incarner en toute petite personne et se mettre dans ce cosmos, etc. C'est quand même bizarre. Alors, qui ne sait pas compter ici? Tout le monde sait compter, on est d'accord? Donc, on va compter, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à l'infini. Ok? Tout le monde sait compter. Alors, cet ensemble, c'est ce qu'on appelle en mathématiques l'ensemble des entiers naturels. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle en mathématiques l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Oui? On est à la note comme ça en mathématiques. On est d'accord? Voilà, ok. Hein? C'est bon? Ok. Alors, on va compter d'une autre manière maintenant. Je vais compter les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jusqu'à l'infini. On est d'accord? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que cet ensemble-là a des éléments qui ne sont pas dans cet ensemble-là? On est d'accord? Tous les nombres impairs ne sont pas là. Ok. Alors, est-ce qu'on est d'accord que cet ensemble-là a plus d'éléments que cet ensemble-là? Merci. Alors, il y a quelqu'un qui connaît la réponse? Non. Mais en fait, ces deux ensembles ont exactement le même nombre d'éléments. Parce que c'est l'infini. C'est pas vrai si je comptais en nombre fini. Si je comptais en nombre fini, je pourrais jamais avoir un ensemble qui contient tous les éléments du premier ensemble et qui contient d'autres éléments qui sont pas et qui ont même le même nombre. C'est parce que parce qu'on touche l'infini. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on touche l'infini, on tombe sur des trucs assez incroyables. Okay? On tombe sur des choses assez incroyables. En fait, alors ça c'est l'exemple, d'ailleurs, ça c'est l'exemple le plus basique. Je vais donner un exemple et vous allez vraiment voir que l'infini c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et vous allez comprendre pourquoi le Dieu de l'infini peut s'incarner en Jésus-Christ. Je vais placer une droite. Ok? Où s'arrête cette droite? On est d'accord que la droite, on peut la poursuivre jusqu'à l'infini. Et de ce côté aussi, jusqu'à l'infini. Ok? Bon. Le constat que j'ai fait tout à l'heure, je vais le faire ici. Je vais placer 0 quelque part. Ok? Je mets 1, 2, etc. Et puis là, je mets le nombre négatif. Moins 1, moins 2, etc. Ok? Combien il y a de nombres sur cette droite-là? Une infinité. On est d'accord? Maintenant, je vais prendre par exemple l'intervalle 0, 1 sur cet intervalle-là. Combien il y a de nombres sur cet intervalle-là? Une infinité. Je vais vous apprendre quelque chose. La droite toute entière et cet intervalle-là, ils ont le même nombre d'éléments. Désolé, je ne peux pas aller plus loin. En fait, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la théorie cantorienne des enfants, des ensembles. Et en fait, je ne peux pas... Enfin, c'est des choses très techniques. Mais en fait, vous voyez... Cantor, c'est Cantor. C'est Greg Cantor, en fait, qui a montré ça. Et c'est une révolution en mathématiques, ok? En fait, ce qui se passe, c'est que l'infini peut se réduire en termes de nombre d'éléments vers ça. Donc, quand vous dites que Jésus... quand on dit que Jésus peut... Le Dieu qui peut s'incarner avec une nouvelle petite personne, c'est... je peux donner un modèle, et ce modèle, c'est celui-là. Ok? Je suis désolé, j'espère que vous avez compris. C'est technique, donc je ne veux pas aller plus loin. Mais ces deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la théorie de Cantor, il a même montré qu'il y a plusieurs types d'infini. Et on peut comprendre, c'est que moi, quand je vois ça, je vois Dieu, le Père, Dieu, le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit. Ça ne me dérange pas. Parce qu'en fait, je vois en l'infini dans chaque élément. Ok? Voilà. Donc, ne vous laissez pas assez souvent vous impressionner par des gens qui veulent vous, c'est comme quand on dit qu'on a la foi. Les gens disent, mais moi je vais un jour en fait, je vais finir par ça. Je vais un jour en fait, un de mes chefs qui me disait qu'il voulait qu'on se voit un dimanche matin. Ben, et puis parce qu'il voulait qu'on mange ensemble, etc. Donc il habitait à côté de Percy, donc il voulait m'inviter au village de Percy. Et puis il me dit, ben, tiens, dimanche matin, on essaie de faire. Je dis, ah non, dimanche matin, moi je suis à l'église. Et puis Breguin, il me dit, oula, tu fais partie des 0,5% qui vont toujours à l'église. Il me dit, mais c'est bizarre, comment toi tu peux être aussi rationnel et continuer à aller à l'église? Je lui ai dit, mais tu sais, je l'ai répondu comme ça. Je lui ai dit, ok, admettons que je te dise, je viens à ton rendez-vous. Je lui ai dit, ok, si je te dis, je viens à ton rendez-vous, est-ce que je vais te démontrer que je vais vraiment venir à ton rendez-vous? Il me dit, non, mais ça n'a aucun sens. Je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir confiance, tu vas avoir la foi que je vais venir. Et je lui dis, tu sais, l'individu, il est plus un individu de foi qu'un individu de démonstration, etc. Donc, faut pas avoir peur de dire qu'on a la foi. Parce qu'en fait, finalement, on est plus des individus de foi que des individus de rationnel, plus rationnel, plus raison. Donc, faut pas avoir peur de ça. Et d'ailleurs, tu vois, quand on prend dans le domaine de la science, quand on fait un médicament, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire un médicament, on va le tester. Mais on ne démontre jamais que ce médicament va marcher tout le temps. On ne sait pas. Mais on pense, on a la foi que ça va marcher. Donc la science même marche sous cette logique de foi. Donc il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a la foi. Il ne faut pas avoir peur de porter justement ce message du Christ. Moi, je trouve que... Moi, c'est ça qui a fait que je suis chrétien. Honnêtement, si je venais à l'église à entendre les gens parler en langue, je ne serais pas chrétien. Voilà. Je dis honnêtement. Non. Mais en fait, c'est que nous, les chrétiens, c'est qu'on ne mesure pas la portée du message de Christ. Elle est tellement immense, tellement radicale comme message, et tellement pointue comme message, qu'on oublie des fois, en fait, la force qu'il a. Il faut qu'on soit conscient de la force du message de Christ. C'est un message formidable. Donc, je vous encourage à lire la Bible, à lire votre... pour s'accaparer vraiment du message de Christ, parce que c'est vraiment le message de vérité. C'est C'est ce que je voulais vous partager. J'espère que je n'ai pas été très long et j'espère que ce n'est pas été très technique. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé non plus. Voilà, merci. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur, d'être ensemble, Seigneur. Seigneur, nous voulons partir de là en gardant cette vérité dans notre cœur que tu nous as tellement aimé que tu t'es fait homme pour nous sortir de notre état. Seigneur, nous voulons juste retenir ça et nous voulons te remercier pour ça. Aide-nous à mener une vie de sainteté et une vie, Seigneur, pleine d'amour. Plein d'amour pour toi, mais plein d'amour aussi pour les autres. Seigneur, porte-nous, Seigneur, vers l'éternité. Nous te rendons grâce et te remercions pour toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen.